Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Voltaire et l'affaire Calas.
Il ne porte pas de blessure. Il est un peu froid.
Il y a des traces de cordes comme pour un pendu.
Ou un étranglé.
Étranglé ?
Vous avez entendu ?
On a assassiné. Faut prévenir le Capitoul.
Après la mort énigmatique de Marc-Antoine, l'un de ses fils, Jean Calas, négociant toulousain resté protestant, sera accusé de l'avoir supprimé parce qu'il s'apprêtait à passer au catholicisme. Et Calas sera exécuté en 1762. Il aurait commis en somme un filicide, comme il y a des parricides. Il est curieux que ce type d'accusation revienne régulièrement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des crimes d'honneur qui seraient préparés par des tribunaux familiaux musulmans, outrés du comportement trop libre de leurs filles. Mais ce n'est certes pas ainsi qu'on peut expliquer la forte présence aujourd'hui de l'affaire Calas. On sait qu'en plein milieu de son combat pour la réhabilitation du Toulousain en 1763, Voltaire publia un traité de la tolérance. Or, après les attentats des 7 et 8 janvier, les ventes de ce livre se sont envolées spontanément, comme si la France de Voltaire et de Dreyfus revenait à l'affaire Calas comme à une source. Évidemment, celle-ci n'est pas un lac de cristal. Les historiens aiment bien les questions. Par exemple, la justice de l'époque était-elle aussi caricaturale que le prétendait Voltaire? Ou la République des lettres aussi secourable? Pourquoi Voltaire, qui était l'un de ses princes, enleva-t-il soudain la mouche de son fleuret et attaquait-il bille en tête? Parce que l'ancien régime s'adoucissait. Le combat pour Calas était possible parce que l'adversaire, gagné de l'intérieur, y consentait. Il faut le dire aussi.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Et je pense que Benoît Garneau, bonjour.
Bonjour.
Va le dire aussi, vous êtes un historien de la justice. Chez Attier, un petit livre cursif sur l'affaire Calas. Et il y a peu, chez Belin, la faute à Voltaire, avec une idée derrière. Voltaire, que d'erreurs on commet en ton nom. On peut dire que vous vous parlez depuis le point de vue, le massif même, des archives.
Oui, je me fonde sur les archives et les archives judiciaires, donc les innombrables procès de l'époque. Et puis quand il s'agit de Voltaire, les textes de Voltaire, en particulier sa correspondance qui était immense et dans laquelle on peut trouver énormément de choses, qui ne correspondent pas toujours à l'image qu'on se fait de Voltaire.
1500 correspondants peut-être.
Oui, 1500 correspondants, 13 volumes je crois à la Pléiade, plus de 15 000 lettres, encore il en manque.
Alors, parlons de Toulouse, en 1762, c'est un méchant moment pour les protestants qui sont obligés à la dissimulation, comme depuis la révocation, depuis près d'un siècle, mais qui sont aussi l'objet d'excitation.
Oui, Toulouse, c'est 50 000 habitants, 200 protestants, donc ils sont ultra minoritaires. Les lois leur donnent peu de liberté, mais dans la réalité, dans la vie quotidienne, s'ils se montrent discrets, ils ne connaissent aucun problème. Donc les choses vont à peu près correctement en général. Mais là, précisément, à cette date précise, 1761, les protestants sont soudain mal vus parce que... Alors, il y a toute une série d'explications. D'abord, il y a un souvenir historique au XVIe siècle. Il y a eu des luttes très fortes entre protestants et catholiques à Toulouse. Et chaque année, on rappelle ces luttes avec une grande procession catholique. Donc, il y a une sorte d'inconscient collectif. Et puis, cet inconscient, il ressort. C'est le refoulé qui revient quand il y a des difficultés conjoncturelles. Et là, on est en pleine période de difficultés conjoncturelles. On est en guerre contre des puissances protestantes, la Prusse, l'Angleterre, et on subit des défaites. On est en période de crise économique. Donc, les prix montent. Le petit peuple toulousain est mécontent. Et puis, un mois avant que l'affaire Calas ne commence, on a eu à Caussade, un petit bourg près de Montauban, on a eu l'arrestation d'un pasteur protestant.
Un prédicant clandestin.
Oui, clandestin, qui s'appelait Rochette. Une tentative de libération par quelques protestants qui ont fait un commando pour essayer de le libérer. Alors c'était presque rien, mais très rapidement le bruit a monté, la rumeur a enflé et on a cru à Toulouse que les protestants se révoltaient dans toute la France.
Enfin ça fait quand même presque rien, 4 exécutions, le prédicant et les 3 gentilshommes verriers qui avaient essayé de le libérer.
Les, Quatre exécutions, ce sera quelques mois après. Mais sur le moment, ils sont enfermés à Toulouse, on va les juger.
Alors le moment, c'est octobre 1761. Tout à l'heure, à midi, on a changé la plaque qui était apposée sur la maison des Calas devenue casino. On a mis une autre formule que celle qui était quand même assez désagréable. Cette rue a été rendue tristement célèbre par la famille Calas, indiquait la plaque enlevée. C'est une famille de négociants en tissu. 6 enfants, dont 2 seulement, sont présents au souper de ce soir d'octobre 61, servi par Jeanne, servante catholique, vers 22h après le souper. Pierre, un des fils Calas, découvre le corps de Marc-Antoine, son frère. L'élève chirurgien appelé déclare que Marc-Antoine est mort, étranglé ou bien pendu. Et un capitoul, c'est-à-dire un membre de la municipalité de Toulouse, Baudigue, arrive sur les lieux vers 23h.
Tout ce que vous avez déclaré avant, vous le jurez sur les évangiles, n'est-ce pas? Sur l'épisode sacré de la passion du Christ, hein?
Oui.
Oui.
Jurez.
Je le jure.
Sur les saintes écritures.
Ils vont tout de même pas s'en tirer comme ça.
C'est à n'y pas croire. Tout leur est permis.
La vérité, la voilà par notre Seigneur. Il n'y a pas de bonne justice pour eux.
Pour eux, qu'est-ce qu'on veut dire?
On veut dire qu'ils se permettent tout.
Les protestants.
C'est bien connu. Ils tuent leurs enfants qui veulent retourner à la vraie croyance.
Qui retournent? Qu'est-ce à dire? Vous êtes de la religion prétendue réformée?
Oui, monseigneur.
Tous?
Sauf Jeanne, notre servante. Elle est catholique.
Pourquoi me l'avoir cachée?
Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé.
Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation.
Hein? Quoi? Monseigneur, ce n'est pas le droit.
Allons bien voir. On a raison de se méfier.
Emmenez-les.
Nous allons utiliser à bon escient, j'espère que vous le penserez, le téléfilm de Francis Resserre où le capitoul Baudigue est excellemment interprété par Carlo Brandt. Il voulait devenir catholique, Marc-Antoine, le fils?
Alors c'est ce qu'on prétend. On prétend que Marc-Antoine voulait devenir catholique parce qu'on l'avait vu dans des églises et on en avait conclu que c'était le cas ainsi. En fait, il ne semble pas que ce soit du tout la vérité, mais ce n'est pas ce qu'on croyait. Et en réalité, nous savons maintenant que Marc-Antoine était très attaché à sa foi protestante et qu'il avait même renoncé à sa carrière d'avocat parce qu'il n'avait pas voulu abjurer le protestantisme. Mais ce n'est pas ce que croit la population, qui est, je vous l'ai dit, en pleine période d'anti-protestantisme aigu à cause des événements conjoncturels et qui, s'apercevant justement de la mort de Marc-Antoine, aussitôt interprète cela comme un acte d'anticatholicisme. Le père protestant aurait tué son fils pour l'empêcher d'abjurer.
Alors nous ne faisons pas d'ellipse, nous examinerons dans la deuxième partie de l'émission la manière dont l'enquête a été faite, dont 2 juridictions, chacune à une étape, sont intervenues, les capitouls puis le Parlement de Toulouse. Le 9 mars, la date n'est pas indifférente, 1762, Jean Calas est condamné, puis exécuté, préalablement lui a administré la question. Il a maintenu ses réponses précédentes, je suis innocent, d'habitude toute personne proche du trépas se met en règle avec sa conscience, ça a provoqué. Donc déjà dans l'opinion toulousaine, jusqu'ici soudée contre lui, un certain trouble. Et quand Voltaire va-t-il intervenir? Lui, il est à Ferney, qu'il ne considère pas comme un exil, mais comme une base de la République des Lettres, base de la philosophie, un pied en France, un pied en Suisse, 2 pieds près de la tombe, mais très actif.
Oui, il est à Ferney, donc près de Genève. Il est au sommet de sa carrière. C'est le plus grand intellectuel, le plus connu de toute l'Europe. Et il apprend la mort et l'exécution de Jean Calas une dizaine de jours après, donc vers le 20 mars 1762. Et quand il apprend ça, il trouve que c'est très bien qu'on ait exécuté Jean Calas, il prend la version officielle, il la croit, un père protestant a voulu tuer son fils qui voulait se convertir. Donc c'est un fanatique et par conséquent il est très bien.
Parce qu'en matière de fanatisme, les Huguenots, écrit-il dans sa correspondance en mars 62, sont encore pires que nous.
Oui, en fait, il met les catholiques et les Huguenots dans le même sac, si je puis dire. Il considère que, bon, il croit en Dieu, il est déiste, mais il considère que à partir du moment où la croyance en Dieu devient une religion et où il y a un clergé, il y a forcément fanatisme parce que chacun veut convertir les autres.
Et donc, en mai, deux mois après, il est encore sur cette position, le fanatisme est une hydre à plusieurs têtes.
Il pense toujours cela, mais il a commencé à se poser des questions. Une quinzaine de jours après qu'il avait appris l'exécution, il reçoit d'autres informations. Et on lui dit qu'en effet, à Toulouse, certains doutent de la culpabilité de Jean Calas. Alors il s'informe. Il s'informe aussi auprès des autorités à Versailles. Et puis finalement, son avis va changer. Et il va modifier, il va prendre l'avis inverse. Il va être persuadé, notamment grâce aux visites de deux enfants de Jean Calas, il va être persuadé que les choses ne se sont pas du tout passées comme ça a été dit ainsi. Que Jean Calas est innocent et surtout qu'il n'a pas tué ou fait tuer son fils.
Alors il juge le moment opportun, il n'est pas seulement indigné, pour intervenir et pour faire sortir la République des Lettres, ce réseau de correspondance et de salons qui jusqu'ici est dans une hostilité souterraine aux routines de l'orthodoxie, de sa réserve.
Oui, il est lié donc à toute une série d'écrivains, bon, qui sont les écrivains des Lumières, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Il est lié à un certain nombre de dirigeants politiques, notamment Choiseul, Saint-Florentin, bon, qui sont les ministres principaux du roi, la
Saint-Florentin favorite, qui s'occupe de la RPR, de la religion prétendue réformée,
qui est un peu l'équivalent du ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Il est lié à la favorite, Madame de Pompadour, à des souverains étrangers. Il est très influent dans les institutions de la République des Lettres, notamment à l'Académie française, avec son ami d'Alembert, qui est président de l'Académie à ce moment-là.
Mais qu'est-ce qu'on appelle la République des Lettres, qui existe depuis le XVIe siècle, peut-être depuis le XVIIe? En tout cas, c'est un réseau.
C'est une nébuleuse, c'est un réseau de gens qui s'écrivent, qui se connaissent, qui se soutiennent, qui se disputent aussi, qui ne sont pas forcément du même avis, qui se considèrent comme une élite, tant politique sociale et intellectuelle, et qui cherche aussi beaucoup à influencer le pouvoir en place.
Mais au XVIIe siècle, il ne se serait pas permis de mener campagne contre un ancien régime absolutiste encore fort. Là, le moment est mûr.
Oui, je ne suis pas persuadé parce qu'il y a eu des campagnes au XVIIe siècle qui ont même été plus fortes au moment de la Fronde. Il y a beaucoup on va même jusqu'à prendre les armes. Là, c'est une campagne qui est beaucoup plus souterraine, qui est beaucoup moins marqué, parce que, de toute façon, une bonne partie des gens de la République des Lettres, ils sont déjà au pouvoir, ils sont déjà autour de roi Louis XV, c'est un combat qui est déjà à peu près gagné.
Alors, il y a aussi des cercles concentriques et des parties de l'opinion beaucoup moins cultivées qui sont touchées par les brochures, par les pamphlets, par les images.
Voilà, c'est justement ce que Voltaire essaye de faire. Il essaye de dépasser cette simple République des Lettres pour faire passer du côté de la révision qu'il veut obtenir de ce procès. L'opinion publique en général. Alors, dans son esprit, l'opinion publique, c'est pas la campagne, c'est pas les paysans qui constituent pourtant 80% de la population, mais c'est l'opinion urbaine. Et il pense que le cri public, comme il l'écrit plusieurs fois, pourra faire basculer les choses.
Et qu'avec le cri et les larmes aussi, parce que les images représentent une famille éplorée.
Justement, il fait appel beaucoup dans son argumentation au sentiment. Il présente la famille Calas comme une famille qui s'entendait extrêmement bien, ce qui n'est pas vrai du tout. Il présente les différents personnages avec des qualités exceptionnelles. Le père, c'était le patriarche, qui était un excellent père, et on sait très bien que ce n'était pas vrai du tout, qu'il s'était fâché notamment avec un de ses fils qu'il avait mis à la porte.
Il était un peu radin.
Il était un peu radin, oui, sans doute. Et il était aussi très... Il laissait assez peu de liberté à ses enfants sur Marc-Antoine. C'est sans doute une des raisons qui a poussé Marc-Antoine au suicide, d'ailleurs.
Mais que voulez-vous ? La partie est inégale, expliquez-vous, dans votre livre La faute à Voltaire, chez Belin. Voltaire joue avec talent et bruyamment. À Versailles, on résiste mollement. La cassation va être prononcée dès 1764. Encore un son extrait du téléfilm de Resserre. Nous sommes au moment où Choiseul et Saint-Florentin jugent la partie jouée.
Le conseil du roi que je saisis au nom des Calas ne pourra moins décider que, premièrement, libérer la veuve Calas et son fils et ses filles. Secondement, les indemniser fortement du malheur qu'on leur a infligé.
Libérer et indemniser. Réveillez-moi, Saint-Florentin, réveillez-moi.
Troisièmement, le conseil du roi ne pourra pas moins faire que désavouer le parlement barbare de Toulouse, coupable d'un assassinat en robe et en bonnet carré.
Libérer, indemniser, désavouer, réhabiliter. Je ne m'en lasse pas.
On dirait que vous l'admirez.
Admirez ? Au fond, peut-être. Voyez-vous, il m'arrive de penser qu'à la place où nous sommes, le destin nous joue un bien vilain tour en nous opposant à lui.
À Versailles, Voltaire n'avait cessé d'être sinon admiré, considéré. Moins de 20 ans avant l'affaire Calas, devant la cour, était donnée une comédie lyrique composée par Rameau sur un livret de Voltaire pour le mariage du dauphin.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Benoît Garneau, historien de la justice, nous parlons de l'affaire Calas au moment où Christiane Taubira, Jean-Luc Moudin, Robert Badinter, tous groupés, célèbrent à cette heure-ci à Toulouse le 250e anniversaire de la réhabilitation du négociant toulousain. Vous avez parlé, Benoît Garneau, de la campagne de Pignon. Vous avez dit qu'elle était menée par Voltaire au nom de la lutte contre le fanatisme. Au bout d'un moment, à force de respecter la procédure judiciaire et de l'inventorier, ça devient de sa part un examen de l'injustice de la justice.
Oui, c'est un examen injuste de l'injustice de la justice, je dirais. Parce qu'il prend l'arbre pour la forêt dans la plupart des cas et il a même tendance à travestir un peu la réalité.
Mais là, on sent le mépris de l'historien du droit et de la justice que vous êtes. Il n'a pas lu tous les jurisconsultes, il n'a pas consulté tous les livres qui sont dans sa bibliothèque. Bah oui.
Je ne suis pas historien du droit, je suis historien de la société. Voltaire n'est pas un juriste, c'est évident, mais ce n'est pas un défaut, c'est ainsi. Son père a voulu faire de lui un juriste, et puis il a tellement peu apprécié que ce sont des choses qui ne l'intéressent pas. Dans sa bibliothèque, il y a très peu d'ouvrages de droit, et il les a très peu lus, semble-t-il, parce qu'il a noté ses livres, et il y a très peu d'annotations. Là.
Oui, mais le droit peut être flexible, a dit le grand doyen Carbonnier, il peut évoluer. Alors en tout cas, vous expliquez qu'il respecte bien les procédures dans sa recherche, et qu'il observe ce qui se passe dans chaque instance. La première instance, c'est les capitouls.
Les capitouls. Alors les capitouls, c'est le conseil municipal, tout simplement, de Toulouse. Mais comme tous les conseils municipaux de l'époque, il a en même temps un rôle de tribunal.
Mais qui, on achète les charges de...
Non, dans les capitouls, ce sont des gens qui sont élus par la population. Enfin, il y en a 4 fois plus qui sont élus, donc il y en a 32.
Une partie de la population.
Oui, une partie de la population. Enfin, disons, les hommes qui ont le droit de bourgeoisie, donc ça fait quand même une partie importante. Et c'est le roi qui choisit un quart d'entre eux pour qu'ils soient conseillers municipaux. Donc eux n'ont pas acheté leur charge. Ils ont donc la responsabilité de la justice en première instance jusqu'au crime de sang. Donc c'est le cas ici.
C'est ce qui se passe sous la pression, vous l'avez dit, populaire. Marc-Antoine, certains Toulousains voudraient presque le canonisé, puisqu'il voulait, dit-on, oui, être catholique dévot, ouvert. Et pendant ce temps-là, Calas, eh ben, il faut le maltraiter.
Et vous, que savez-vous?
Eh bien, il avait menacé son fils de le tuer s'il abjurait.
L'avez-vous entendu directement?
Non, mais on me l'a dit.
Un quart de preuve.
Un huitième, monseigneur. Ce n'est qu'un on-dit.
Je vous l'accorde.
Moi aussi, on me l'a dit. Comme à elle.
Vous voyez?
Et moi aussi.
Attendez, vous êtes donc trois a confirmé avoir entendu dire que le huguenot Jean Calas a menacé de mort son fils Marc-Antoine s'il abandonnait la religion prétendue réformée pour gagner la vraie religion, c'est donc ça?
Oui. Oui, oui.
Trois ont dit, trois quarts de preuve. Non, pardon. Monsieur Monnier va protester, trois huitièmes. Et vous?
On m'a rapporté qu'au moment du crime, la victime a crié « mon père, que vous ai-je fait, mon Dieu ?»
Y avait-il une autre personne avec vous lorsque vous avez recueilli ce témoignage?
Oui, ma femme.
Pour mon père, que vous ai-je fait, mon Dieu, une demi-preuve pour l'homme et une demi-preuve pour la femme. Bien, si je résume, nous avons quatre fois un huitième de preuve, une autre fois deux demi, ce qui nous donne au total... Eh bien, une preuve entière plus une demi, tout cela n'est pas rien. C'est mathématique. C'est une culpabilité mathématique.
Efficace, le film de Resserre qui reprend au fond l'argumentation de Voltaire. Qu'est-ce que c'est que cette procédure inquisitoriale, sinon l'héritage de la vieille justice d'Église qui fabriquait des sorciers parce qu'il fallait qu'il y ait des sorciers?
C'est pas exactement cela. Ce n'est pas la conséquence, enfin, ce n'est pas l'héritier de l'Inquisition. La procédure inquisitoire, ça veut dire la procédure fondée sur l'enquête. Et l'Inquisition, c'est autre chose. Donc, c'est ce que dit Voltaire, en effet, que c'est, et c'est passé à la postérité, mais là, je
vous
contredis totalement.
En faux.
Ouais. Alors, l'histoire des témoins, bon, c'est ça qui est l'essentiel, en fait. Cette procédure inquisitoire pénale, elle ne peut condamner que s'il y a des preuves réelles. C'est-à-dire, s'il y a un aveu, ou des témoignages indubitables, à la différence de notre justice qui peut condamner avec uniquement l'intime conviction. Donc il faut rassembler les preuves. Ici, on n'a pas d'aveu. Calas n'avouera jamais. On n'a pas de témoin direct. Personne n'a vu le crime. Mais on a des rumeurs, des gens qui ont cru avoir entendu, qui ont cru avoir dit, etc. Et c'est en additionnant ces toutes petites morceaux de preuves qu'on peut éventuellement aboutir à une preuve entière. C'est ça que Voltaire refuse.
L'addition, elle est faite dans la deuxième instance, l'instance d'appel, le Parlement de Toulouse. Et là, l'audience devient publique, mais les droits de la défense ne sont pas non plus tellement assurés. Toujours dans le film de Resserre, dernier extrait.
Je vous rappelle, Maître Carrière, que si le Parlement a bien voulu accepter l'appel des accusés, vous ne pourrez pas pour autant plaider de vive voix. Vous devrez nous remettre un mémoire imprimé dont nous prendrons connaissance après avoir entendu les témoins. Nous en avons 26 contre Jean Calas, 17 contre sa femme, 29 contre Pierre Calas, 12 contre l'abbesse et 9 contre la servante Jeanne Viguière. Et combien en faveur des accusés?
Un seul.
Eh bien, les débats sont clos.
S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je tiens à ce que vous entendiez le témoignage du docteur Antoine Louis, de l'Académie royale de chirurgie. Il va vous démontrer scientifiquement pourquoi il est impossible de soutenir que Marc-Antoine ne s'est pas donné la mort lui-même.
Permettez, la mathématique est une science, l'astronomie est une science, mais pas la médecine. La médecine est un art. Nous le savons depuis Hippocrate et Galien. On ne peut donc fonder un raisonnement scientifique sur la médecine. Les débats sont clos. Maître Carrière, donnez-moi vos écritures.
Mon mémoire sur les accusés, Monsieur le Président.
Il est bien épais, mais nous le lirons quand même.
Où est l'échange de la parole contradictoire?
là, je vais pas contredire Voltaire, mais le film, parce que ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité. En fait, il n'y a pas d'audience publique. Il n'y a jamais d'audience publique au pénal à l'époque. Les juges sont réunis à huis clos et ils reçoivent chaque accusé l'un après l'autre. Antoine Louis, le chirurgien qui en a fait approuver l'innocence ensuite, n'a jamais été reçu par ni jamais refusé par les parlementaires parce que son rapport est postérieur à l'exécution de Jean Calas. Alors la défense, elle passe par l'écrit, à la différence d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'avocat ne plaide pas devant le tribunal, mais il écrit sa plaidoirie, qu'on appelle un factum. Et il le donne au juge. Et il le distribue aussi dans la population, où il le vend, où il le donne. Ce qui donne une grande résonance à l'affaire et à toutes les affaires de ce type. Donc c'est un autre type de défense que le nôtre, mais il y a quand même une défense. Il ne faut pas dire que les accusés de l'époque ne sont pas du tout défendus.
Et les peines ? Voltaire trouve un frère, en même temps qu'il écrit le traité de la tolérance, il va, peu d'années après, lire Beccaria. Et vous expliquez, tout le monde peut être d'accord là-dessus, que Beccaria, dans l'histoire de la justice, c'est un nom moins connu des Français, c'est au moins aussi important que Voltaire.
Oui, c'est plus important que Voltaire, parce que Beccaria est le premier qui a formalisé, et avec une argumentation tout à fait rationnelle, la volonté d'une réforme de la justice sur certains points, en particulier la suppression de la question et la suppression de la peine de mort. Et Voltaire a ensuite repris l'ouvrage de Beccaria et a donné de la publicité à une partie de ses idées.
Et il s'agit de proportionner les peines aux délits.
Oui. Il s'agit de, surtout de faire en sorte que des crimes d'importance différente soient punis par des châtiments d'importance différente. En d'autres termes, par exemple, pour la peine de mort, on considérait qu'il y avait trop de cas possibles pour la peine de mort, qu'il fallait hiérarchiser tout cela. Voltaire n'est pas contre la peine de mort. Hein. Les Lumières ne sont pas contre. Diderot, par exemple, voulait la rendre utile, la peine de mort, en disséquant vivant les condamnés à mort.
Donc modération dans l'application de la peine de mort, indemnisation plutôt que l'échafaud des victimes et des familles. Peut-être Robert Badinter, dans la conférence qu'il fera tout à l'heure à Toulouse, reviendra sur ces questions. Merci à vous, Benoît Garneau. Quand même, moi j'aime bien quand les idées sont carrées et simples. Écoutez ce qu'on disait dans les commémorations habituelles de Toulouse avant que n'y viennent de grands esprits. Ici, c'est la libre pensée l'année dernière.
Bien, chers amis, chers camarades, citoyennes et citoyens, c'est donc aujourd'hui Calas dont nous venons honorer la mémoire, et puis Voltaire qui a mené la première bataille d'opinion publique contre le fanatisme et contre l'obscurantisme religieux. Un quart de siècle après, dans ces mêmes rues, le peuple souverain mettra à bas la monarchie. Alors oui, une fois encore, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Merci de votre attention.
Vive le social et à bas les requins. C'est votre thème, Mathieu Vidard ?
Ah, surtout pas à bas les requins. Vous allez mettre en colère nos invités, Jean Lebrun. Aimons les requins, au contraire, dans un instant, c'est le dossier.
Merci.